Radio Campus Lille, il est 6h.
Lundi 30 juin, une trentaine de personnes des associations, syndicats et formations politiques se sont rassemblées devant la permanence de la députée arageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras, en réaction à un appel du collectif national contre la loi Duplon. Une loi examinée en commission mixte paritaire à partir du 30 juin visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Elle est proposée par Laurent Duplon, sénateur Les Républicains et ancien président FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Elle prévoit notamment des simplifications administratives et un soutien à la compétitivité agricole. Ses opposants dénoncent notamment l'ignorance des causes structurelles de la crise agricole, l'impact environnemental et de santé publique que pourrait induire ou accentuer la loi. Au micro, Jean-Michel Sauvage, paysan à Courcelles-le-Comte et membre de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, rassemblement devant du coup la permanence de la suppléante de Madame Agnès Pannier-Runacher. Oui, c'est vrai que maintenant elle est députée du coup, depuis que Agnès Pannier-Runacher est devenue du coup ministre de la transition écologique, de la prévention des risques, de l'énergie. C'est symbolique d'être là pour parler de la loi Duplon.
On est venu pour la solliciter. Bon, apparemment elle n'est pas là ou elle est partie déjà, quoi. Hein. Mais la question de fond, est-ce que c'est les politiques qui font la politique, quoi. Nous, il nous semble que le vrai ministère de l'agriculture et de la transition écologique, hein, j'associe les deux, parce que l'agriculture est quand même très questionnée sur ses pratiques environnementales, quoi, hein, et sa volonté de pouvoir changer, quoi. Hein. Donc on s'aperçoit que le ministère, c'est pas les politiques, mais c'est la FNSEA, quoi, hein, qui fait l'appui et le beau temps, qui décide de ce qu'il faut mettre en place, quoi. Hein. Donc, est-ce qu'on est au bon lieu ? On peut se poser la question, quoi.
Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux autour de cette loi Duplon. Il y a aussi quelques tensions. L'une d'elles, c'est le fait qu'elle ne soit pas débattue à l'Assemblée nationale, qu'elle passe directement en commission mixte paritaire.
Oui, alors, un débat, c'est toujours intéressant, parce que ça repose les questions qui sont posées déjà depuis... il y a rien de nouveau, quoi. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on veut faire marche arrière, quoi. Parce qu'on avançait progressivement dans une pratique qui tenait compte d'un ensemble de choses et pas seulement de la problématique agricole, quoi. Nous, il nous semble que sur le terrain, on a suffisamment de recul et de pratique de gens qui témoignent toujours qu'on peut faire différemment, quoi.
D'une agriculture alternative ?
Ben, pas alternative, une agriculture qui répond aux enjeux de société, quoi. Et que, alors, on ne peut pas obliger les gens à changer d'orientation, mais si on les aidait de façon plus conséquente, ceux qui veulent bifurquer, hein, moi j'ai bifurqué une époque, hein, donc s'il y avait des aides plus conséquentes pour ces gens-là, le mouvement serait plus fort, quoi. Hein. Et donc il faut encourager les gens qui veulent, quoi. Donc il y a des moyens. L'Europe donne beaucoup, beaucoup d'argent à l'agriculture, quoi. Hein. On avancera que si les citoyens se mettent à aussi réclamer, parce que c'est des problèmes aussi de biodiversité, des problèmes de santé, des problèmes, enfin je veux dire, ça touche la société dans sa globalité, quoi.
C'est un leurre aujourd'hui de faire croire aux jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer que leurs conditions économiques vont évoluer dans le bon sens, parce qu'il y aura plus de compétitivité, une certaine souveraineté alimentaire en réutilisant ces pesticides, en faisant passer cette loi.
Bah moi je suis un vieux paysan, hein, j'ai 68 ans. Ce discours on nous l'a tenu depuis tout le temps, quoi. On est passé de 1,6 million quand je me suis installé en 83. À 400 000 aujourd'hui et à 200 000 demain. Donc moi, depuis toujours, j'entends ce discours, la compétitivité, en fait, effectivement, il y a un besoin de revenus pour les paysans, quoi. Hein. Il y a beaucoup de paysans qui sont en difficulté, hein. Il y a beaucoup de paysans qui sont revenus et revenus très bas. Et il y a aussi les agriculteurs qui sont des machines de guerre, quoi. Hein. Machine de guerre parce qu'ils captent l'argent de l'Europe, parce que la fiscalité est faite pour les gens qui gagnent de l'argent et pas pour les petits paysans, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, la matière grise des chambres de gestion travaille pour optimiser la contribution sociale, c'est-à-dire en payer le moins possible. Donc plus tu gagnes d'argent et moins tu en redonnes à la société et plus tu as la capacité d'avaler ton voisin, quoi. Hein. Donc les jeunes qui sont aujourd'hui dans les écoles agricoles, on le fait miroiter que voilà, la technologie va répondre à tout, quoi. Elle répond surtout au fait de faire disparaître les paysans. Ça, c'est un fait, c'est incontestable, quoi.
Au-delà de ça, c'est aussi une loi qui pose un vrai problème de santé publique avec le retour de certains pesticides, que ce soit à la fois pour l'agriculteur qui va du coup être en contact avec ces pesticides, mais aussi le consommateur après et l'environnement.
Oui, alors, il faut être juste, il n'y a pas que les paysans qui utilisent des pesticides, hein. Les services publics utilisent des pesticides, mais ça a voulu, hein. Dans les villages, c'est interdit, dans les cimetières, c'est interdit. Hein, c'est un vrai progrès, quoi. Hein. Quand on parle de pesticides et qu'on ne parle pas d'agriculture, les services publics, les cimetières aujourd'hui qui étaient traités avec des pesticides qui ne le sont plus, quoi. Hein. Donc on voit que c'est quand même l'agriculture qui bloque. Hein. Toute personne sensée sait qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Hein. Donc il y a des progrès sur un certain nombre. Dans le droit, mais nous qui habitons la campagne, au village, il y a des moments où on est honteux de ce qui se passe, quoi, hein. Moi, je pense qu'on devrait faire un géant. Hein, ils font des géants, du soir. On devrait se faire un géant en bidon. Moi, il y a quelques temps, 10 ans, 15 ans, j'avais fait un géant à terre en fête, quoi, hein, qui faisait 3 mètres 50 de haut, avec des bidons, avec du rouge partout qui coulait. Voilà, ça, c'est la réalité, quoi. Hein, Il faut mettre de l'image et il faut afficher partout où c'est possible. Les pesticides tuent, quoi. Il faut qu'on se donne les moyens de montrer tous les jours. Voilà, il faut le répéter. Et il faut rendre ça visible.
On continue avec d'autres interventions recueillies lors du rassemblement organisé contre la loi Duplon. Devant la permanence de la députée arrageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras, le 30 juin dernier. Yannick Kremer, représentant de la France Insoumise pour l'occasion.
Moi, je suis là aujourd'hui pour revenir dénoncer une loi qui me semble être un grand bond en arrière, dans la mesure où c'était des mesures qui avaient été prises pour justement protéger à la fois et les agriculteurs et la population. Et aujourd'hui, patatras, on revient en arrière, on réintroduit un certain nombre de pesticides qui étaient interdits. On voit bien qu'il y a des projets qui sont extrêmement controversés, notamment les projets de méga-bassines. Là, cette fois-ci, on les avalise et on les permet de manière quasiment autoritaire. Enfin, pour moi, c'est une manière de plus de dire que l'écologie, c'est vraiment la dernière roue du carrosse du gouvernement Bayrou et de l'ensemble des gouvernements comportés président Macron. Donc il nous semblait important d'être là aujourd'hui pour le rappeler à madame la députée que, et sur cette loi et comme sur beaucoup d'autres, on est contre, on s'y oppose.
Alors ce qu'on vous oppose aussi, c'est que ce soit un moyen de lever certaines contraintes sur le métier d'agriculteur.
Je pense qu'il y avait énormément de manières de faire et d'agir autrement. Très concrètement, il y a des façons de pouvoir aider les agriculteurs de ce pays de manière différente. Là, j'ai surtout le sentiment que ceux qu'on aide, ce sont les lobbies des pesticides et que c'est surtout eux qui vont être les grands gagnants. Les agriculteurs, eux, récolteront des cancers, la population également. Je pense qu'il y avait mille et une autres manières de faire pour pouvoir les aider et les accompagner.
Est-ce que c'est pas un cadeau aussi à l'agro-industrie avec plus de souplesse sur les lois, notamment sur les bâtiments d'élevage ?
D'une manière générale, oui, on voit bien dans quel sens souffle le vent macroniste, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, c'est toujours plus d'accompagnement et de cadeaux pour les plus riches, pour les plus puissants, au détriment de l'ensemble de la population. Et encore une fois, effectivement, cette loi va permettre d'avoir des méga-usines, de permettre des élevages de très grande capacité. Et c'est très clairement le contre-projet agricole qu'il nous faut pour ce pays et pour le 21e siècle.
Une autre problématique de cette loi, c'est qu'elle va passer directement en commission mixte paritaire et qu'elle n'est pas débattue à l'Assemblée.
Pour une raison assez rocambolesque, hein, encore une fois. Manifestement, les députés écologistes et LFI auraient déposé trop d'amendements. Donc encore une fois, dans une certaine mesure, quand on est dans le jeu du processus démocratique, on nous rétorque que finalement, on nous fait de l'obstruction et donc du coup, on passe par-dessus les lois. Ça devient une méthode un peu classique, hein, encore une fois. Hein, les 49-3 à répétition, les manières de procéder de manière autoritaire, c'est très clairement une forme de marque de fabrique aujourd'hui. Donc oui, demain, elle rentre en commission mixte paritaire. C'est la raison pour laquelle il nous semblait vraiment important d'être là aujourd'hui pour leur rappeler leur bon souvenir et encore une fois pour leur dire que et les députés dans l'Assemblée et les citoyens dans la rue, nous sommes opposés à ce projet.
Est-ce que c'est pas une façon aussi de mettre la pression sur les jeunes agriculteurs qui viendraient de débuter le métier en leur faisant peut-être miroiter une solution pour l'avenir, que ce soit au niveau d'une espèce de souveraineté alimentaire ou d'un alignement sur les lois face aux autres pays européens et donc pour créer une compétitivité?
Très concrètement, on voit bien que c'est une loi qui a été taillée sur mesure pour permettre l'entrée dans le Mercosur. Hein. Mercosur dont on nous crier à corps et à cri qu'il n'était pas question qu'on y entre, et manifestement il ne semble pas que ça soit exactement le même son de cloche qu'on entend au niveau européen, donc oui, de toute manière, oui, pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans ce métier, mais comme pour, je pense, l'ensemble de la jeunesse de ce pays et l'ensemble des salariés, des travailleurs de ce pays, d'une manière générale, c'est une manière de leur mettre une pression supplémentaire, une pression sur la production pour les paysans, une pression sur les prix pour les consommateurs, et dans une certaine mesure on se retrouve tous pris au piège par ce genre de loi du plomb, et voilà.
Valérie, citoyenne.
Alors moi, je suis venue en tant que citoyenne parce que je suis catastrophée par cette loi du plomb qui, si elle est votée, va nuire grandement à l'environnement. C'est un recul qui me paraît phénoménal et au service de l'agro-industrie, en fait, de la FNSEA. Alors, c'est injuste par rapport aux paysans. Et puis, c'est injuste aussi par rapport à la biodiversité. Ça nous concerne tous. Donc, il faut se manifester. Il faut vraiment agir pour que les choses aillent du bon côté. Il faut écouter davantage le citoyen. J'ai lu quelque part qu'il y avait 75-80% des gens qui étaient contre cette loi du plomb. Et le passage en force est inacceptable. Et je sais qu'il y a des personnes qui avaient rendez-vous avec la députée Levasseur, mais ça a été annulé au dernier moment. On ne comprend pas. C'est des choses qui sont capitales. J'ai cru entendre qu'elle était pour la loi du plomb. Je pense qu'on m'a dit qu'elle avait rechangé d'avis. J'espère qu'elle a changé d'avis, parce que sinon c'est vraiment dramatique. Elle remplace une ministre de l'écologie. On ne comprend pas. Voilà.
C'est ça qui est affirmé aussi par les opposants, c'est que ça va donner un vrai avenir. Ça met une sorte de pression peut-être sur les jeunes agriculteurs aussi qui pensent que c'est un pas nécessaire pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation française.
Je pense que c'est encore une fois un recul. La France devait montrer l'exemple et les jeunes agriculteurs, au contraire, ils seront victimes de tout ça. Il faut réfléchir à changer le système avec tous les agriculteurs et ne pas aller toujours vers plus d'agro-industrie au bénéfice d'une minorité. Il faut justement qu'il y ait plus d'agriculteurs qui s'installent, mais encore une fois, il faut respecter les plus petites structures qui respectent la biodiversité, c'est notre capital, d'autant plus avec le changement climatique, c'est notre avenir qui se joue, l'avenir des jeunes.
Parce qu'il existe justement des modèles d'agriculture alternatifs qui fonctionnent.
Tout à fait, oui. Alors je ne les connais pas forcément parce que, comme je vous dis, je suis citoyenne lambda, mais on n'en parle pas suffisamment, c'est sûr.
Ce qui vous dérange aussi, c'est justement ce coup de force, le fait qu'elle passe directement en commission mixte paritaire et pas à l'Assemblée?
Oui, entre autres, oui, il n'y a pas que ça qui me dérange, mais oui, ça c'est vraiment inacceptable, oui.
C'était un retour sur le rassemblement contre la loi du plomb organisé lundi 30 juin devant la permanence de la députée arageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras. Un rassemblement en réaction à un appel du collectif national contre la loi du plomb. Un reportage réalisé par Laura Becker pour Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage.
واحد الغزال يا الحباب واني واحد الغزال خلاني حيران ديك النظرة شعلت نيراني مولات الزين يا حلت العيان.
Le ciel l'avait pourvu des mille à part.
le temps que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle, qui vous attache et qui vous mène par le bout.
Mrs. Will ya make me tea? Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah, yeah, yeah.
BBC One. BBC Two. BBC Three. BBC Four. BBC Five. BBC Six. BBC Seven.
Mrs. Will ya make me tea, make love to me, put on the telly. To the BBC, to the BBC. Will ya make me take my love to me, put on the telly.
Peace. Les jeunes de la région Hauts-de-France lisent moins, environ un jeune sur cinq selon le Centre National du Livre, et c'est pour cette raison que des événements littéraires sont organisés dans la région, comme le Livrodrome à Saint-Just-en-Chaussée, dans l'Oise. Cet événement invite le public à participer à près de 20 attractions ludiques, puis à repartir avec des livres grâce au chèque lire offert. Nous vous faisons découvrir les stands.
Je suis Louis Clèche, je suis artiste-auteur, et dans mon travail artistique, je fais plein de choses, de l'écriture, du dessin, de l'installation. Et là, je suis là pour présenter un jeu de dessin qui s'appelle Scritch.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce jeu-là ?
Oui, c'est un jeu de dessin avec des thèmes de dessin au choix qui se combinent à des contraintes de dessin pour rendre les choses plus compliquées et plus amusantes. Et il y a un système de comptage de points qui arrive ensuite, qui est un système complètement arbitraire et qu'on ne peut pas anticiper, qui met tout le monde au même niveau. En fait, qu'on sache bien dessiner ou qu'on croit, qu'on pense savoir mal dessiner, et ben tout le monde est au même niveau parce que les critères du type vous avez utilisé un stylo vert ou vous avez mis des cheveux sur la tête de votre personnage vous font gagner des points dans une partie et perdre des points dans une autre partie. La personne qui a ensuite le plus de points gagne tous les dessins de la partie.
Et donc c'est important pour vous de mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité.
Exactement, c'est l'idée de faire passer à tout le monde un bon moment à dessiner plutôt que de complexer les gens à devoir reproduire quelque chose qu'il faut essayer de deviner.
Et pour l'instant, ça se passe comment cet atelier ?
C'est hyper intense, il y a beaucoup de monde qui veut jouer, qui se prend au jeu et qui attend jouer, ça n'arrête pas depuis ce matin.
Association Paradigme qui est basée à Clermont et on a un atelier d'imprimerie au Moulin de Saint-Félix à Saint-Félix.
Et donc quel est votre atelier aujourd'hui au Livrodrome ?
Alors notre atelier au Livrodrome c'est Crétonzine, donc en gros nous on est actifs dans la micro-édition, on fait plein de petites éditions avec plein d'artistes différents et on agit autour de l'artisanat du livre. Donc aujourd'hui on va faire de la sérigraphie, on va avec l'aide d'Anaïs Urbain, une copine qui est relieuse, on va mettre en page et relier un petit livre avec une couverture sérigraphiée et dedans il y aura un petit peu des réflexions sur la littérature jeunesse, etc. Donc on va laisser un peu libre les élèves pour qu'ils fassent un petit contenu sympa.
Et donc ils vont faire des collages ?
Collages, découpages, un peu de tampons, un peu d'écriture, un peu de dessin, d'illustration. Et à la fin, ils repartent normalement avec un petit objet livre, petit fanzine, quoi. La sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui utilise un peu le système du pochoir avec un écran. Donc là, on fait un système un petit peu rigolo avec du découpage papier. Donc il n'y a pas trop de préparation en amont. Ça permet de faire un truc un peu graphique assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu un atelier que j'ai développé dans le milieu scolaire et ça marche bien, donc je me suis dit que c'était approprié au Livrodrome.
Des activités plus sportives sont organisées autour du livre, comme le bookball.
Je m'appelle Virgile Lefebvre et je suis le responsable du secteur jeunesse de la commune de Saint-Jean-en-Chaussée.
Et donc aujourd'hui, vous tenez un atelier, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors, c'est un atelier qui s'appelle le bookball, donc c'est un lien entre la littérature et le football. Et le but étant pour les jeunes de leur faire découvrir le foot autrement, avec des nouvelles règles.
C'est-à-dire de nouvelles règles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bah, déjà la première étape c'est qu'ils doivent pour s'inscrire, ils doivent déjà être passés à la librairie et pour trouver un livre qui leur convient pour pouvoir s'inscrire. Après de là, par 10, ils participent au match, deux équipes de 5. Et les règles peuvent être, donc il y a une règle qui est tirée au sort et ça peut être le ralenti. Ça veut dire que tout se joue à 2 km/h, selon l'expression, tout en arrière, donc que des déplacements en marche arrière. Il y a aussi le but, le thème la main de Dieu, où un but marqué de la main vaut 2 points. Il y a l'intégrale, où là on a le droit de jouer avec les mains, les pieds, la tête, les genoux, les coudes, tout ce qu'on veut. Entre autres, il y a une vingtaine de règles comme ça, et tout est fait par tirage au sort. Il y a par exemple la mort subite, un joueur qui marque sort du terrain. Et ce matin, on a eu la chance d'avoir une équipe qui jouait à 1 contre 5.
Donc c'est un petit peu pour mettre peut-être les joueurs sur un pied d'égalité, toutes ces règles un peu inédites qu'on ne voit pas dans le foot traditionnel.
En fait, ça part d'un livre qui a été écrit il y a quelques années qui s'appelle Tatane. Et en fait, c'était l'écrivain avait voulu faire découvrir par son écriture des joueurs de football connus et la particularité liée aux joueurs de football. Notamment la main de Dieu qui est reprise de ce livre-là, qui fait référence à Maradona avec son but en Coupe du Monde.
Et pour l'instant, ça se passe comment ? Vous avez du monde ?
C'est la folie depuis ce matin, mais vous doutez bien qu'avec des collégiens fans de foot, dès qu'on a vu football, ils se sont dit « on va y aller ».
»
Alors aujourd'hui sur le Livrodrome, ce sont des salles de cinéma où en fait au lieu de regarder des films, on va vous lire des extraits de livres en lien avec les...
Où il y a eu des adaptations.
Voilà, des adaptations de cinéma.
Alors là, on a des livres pour les ados, on va dire. Donc moi, c'est Le Comte de Monte Cristo, Divergent et Charlie et la chocolaterie. Donc je pense que c'est des livres qui parlent aux ados et puis qui vont leur donner envie de lire.
Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait d'un livre, s'il vous plaît ?
Monsieur Wonka. Cette gomme poursuivie Monsieur Wonka est la dernière, la plus importante, la plus fascinante de mes inventions. C'est un vrai repas. Cette minuscule bande de gomme que vous voyez là est à elle seule un véritable dîner composé de trois plats.
Que racontez-vous là ? C'est insensé, dit l'un des pères.
Cher monsieur, s'écria Monsieur Wonka, cette gomme, une fois mise en vente dans les boutiques, changera la face du monde. Ce sera la fin des plats cuisinés. Plus de marché à faire, plus de boucherie, plus d'épicerie, plus de couteaux, plus de fourchettes, plus d'assiettes, plus de vaisselle à laver, plus de détritus, plus de pagaille. Rien qu'une petite barre magique de chewing-gum Wonka. Elle remplacera votre petit déjeuner, votre souper. Ce morceau de gomme que vous voyez là représente justement une soupe à la tomate, un roast beef et une tarte aux myrtilles. Mais le choix est grand. Vous trouverez presque tout ce qui vous plaira.
Soupe à la tomate, roast beef, tarte aux myrtilles ? Que voulez-vous dire par là ? Demanda Violette Beauregard.
Il suffit de mâcher cette gomme, dit Monsieur Wonka, pour avoir exactement l'impression de manger ce menu. C'est absolument stupéfiant. Vous croyez avaler réellement votre nourriture, mais vous la sentez qui descend jusque dans votre estomac. Et vous mangez avec appétit.
Mais qu'en pensent les participants ? Ils nous racontent leur expérience.
Alors, est-ce que vous avez déjà choisi un petit peu les livres que vous voulez prendre ?
Non, on était en train de regarder. Pareil.
Et il y en a un qui vous fait particulièrement ?
J'aime bien la couverture.
Ouais, c'est un truc qui t'attire l'œil direct, quoi.
Oui.
C'est important pour toi ?
Oui.
Et vous lisez quoi, d'habitude, comme livre ?
Moi, je lis beaucoup... Je sais plus le nom.
Romance ?
Oui, mais je sais plus le nom exact... Des romans d'amour.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Moi, c'est passionnant à lire et moi, j'aime bien l'histoire. Donc, moi, quand je lis, je suis dans ma bulle.
Ouais, tout de suite, ça vous transporte dans l'histoire. Et vous lisez autre chose que de la romance, de la young adulte, tout ça ?
Des BD.
Quel genre de BD ?
Mortel Adèle.
Je m'appelle Evelina.
Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu te sens ?
Je me sens bien. Hein. Je trouve c'est bien organisé. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a des choses qu'on n'a jamais faites en fait.
C'est-à-dire ?
Par exemple, le book club. Il y a des livres que tu peux écouter.
Le Livrodrome est organisé depuis 3 ans par Gauthier Morax, le directeur de cet événement. Le Livrodrome, un parc d'attractions littéraires. Un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
S'habitue la honte. Tous ces pauvres airs ont de pauvres airs, résidus de quelques guerres, quelques viscères. C'est comme pour les libertés, bafouées, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. C'est comme pour le temps de cerveau disponible, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. We are home, stranger.
fait la malle. Liberté chérie, who is fucking free here? La treille des autismes exubérants, arachide des palmiers. Je fais gros dos, je râle, je me fous en boule, j'harangue la foule. Je miaule, je me gratte la manche, je m'habitue. Je danse d'un trottoir à l'autre, je danse une danse de frôlement. Mon rythme est chaloupé, mon rythme est saccadé. Mon rythme est chaloupé, mon rythme est saccadé. Liberté chérie, who is fucking free here? J'esquive, je pisse sur place, on voit la trace de mes godasses. J'aspire à éviter l'ombre, suivant les reflets d'un soleil d'ambre. Cherchant sans répit l'éblouissement caractérisé, je vise les vides, les interstices. Habitué.
Beaucoup d'entre nous, les Jeux Olympiques ont été l'occasion de découvrir le BMX. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mathieu ont écrit l'histoire du BMX français en réalisant un triplé historique. Dans les Hauts-de-France, il n'y a pas moins de 21 clubs et plus de 500 pilotes. Je suis allé à la découverte de cette discipline au BMX Club de Crépy-en-Valois lors de la quatrième manche de la Coupe régionale Hauts-de-France de printemps. Rencontre avec Georges Béranguet, ancien président et fondateur du club.
J'ai monté l'association vers 1997-98. Et donc après, avec la, j'ai été voir la ville pour essayer d'avoir un terrain pour faire connaître le monde du BMX, pour faire fonctionner le club et puis faire voir aux Crépinois, puis à beaucoup de monde, puis comme il y avait beaucoup de championnats, puis d'avoir une piste et puis pour participer après sur les courses comme aujourd'hui, actuellement.
C'est une piste pour faire du race, du racing
C'est du BMX race.
Il y a plusieurs sortes de BMX.
Voilà, dans la catégorie BMX, il y a BMX race, là c'est sur circuit. Donc après, il y a BMX Dirt. Dirt, c'est-à-dire des bosses où les pilotes font des figures. Et donc après, il y a du flat. Et le flat, c'est au sol. Donc après, c'est des pilotes qui font des acrobaties sur leur vélo. Des vélos plus lourds avec leur cale-pied. Et là, actuellement ici, sur Grébly, c'est la race. C'est avec un vélo le plus léger possible. Parce qu'après, quand on est sur le circuit, c'est un circuit ici à Crépy qui fait à peu près 340 mètres. Donc après, donc il faut essayer d'avoir un vélo le plus léger possible pour accéder, comme c'est très 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 physique. Et donc voilà.
Alors j'ai vu qu'il y avait deux catégories de courses. Il y a les 20 pouces et le cruiser.
Oui.
C'est quoi la différence ?
Alors le 20 pouces, c'est un BMX normal, comme vous voyez, avec des petites roues. Et donc le cruiser, c'est avec des roues de 24 pouces. Ça ressemble, c'est entre le VTT, et puis le VTT c'est du 26 pouces, et puis le cruiser c'est du 24 pouces. Et donc,
ça fait une grosse différence pour la course ?
Bah la différence, oui, parce que le vélo est plus grand, avec bien sûr avec les roues de 24 pouces, donc c'est plus grand, et puis on est quand même mieux aussi sur un vélo de cette taille-là, sur un 24 pouces cruiser.
Dans le club, là, il y a combien d'adhérents, à peu près ?
Là, actuellement, depuis l'année dernière, avec les JO de Paris, on a fait un triplé français, médaille d'or, bronze et puis argent. Et donc, ça, dans tous les clubs, ça, et puis les gens ont découvert en même temps aussi ce sport-là, avec le triplé olympique. Et là, on est monté en flèche dans beaucoup de clubs. Et puis là, on est à plus de 80 pilotes.
Et alors, ça commence à partir de quel âge ?
Ah, donc là, ça commence à partir de, on va dire, 4 ans et demi, 5 ans. C'est suivant. Après, il y a des gamins de 4 ans et demi qui peuvent tenir sur un vélo. Parce qu'après, il y a plusieurs dimensions de vélo. C'est-à-dire, après, il y a micro, après, il y a mini, après, il y a après, il y a pro XL, enfin, après, il y a, suivant la taille des pilotes, il y a une taille appropriée pour le pilote de taille de vélo.
Et ça va jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à vétéran.
Il n'y a pas d'âge pour finir ?
Il n'y a pas d'âge, quoi. Et maintenant, après, on fait actuellement les draisiennes. C'est des petits vélos sans pédalier. C'est-à-dire que les gamins ont les pieds, et c'est-à-dire qu'ils poussent avec leurs pieds, et on commence à les mettre sur une ligne pour qu'ils commencent à s'adapter, à pousser avec les pieds. Et puis donc après, si ça leur plaît, après c'est là qu'ils passent sur une catégorie donc après actuellement, après jusqu'à... Et c'est là qu'ils découvrent en même temps le BMX, ça leur plaît, puis donc après...
Vous disiez 4 ans et demi, on peut faire de la compétition à partir de 5 ans, 4-5 ans ?
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bah oui, comme là actuellement, il y a les catégories. La première catégorie commence après, bon, c'est je sais pas quoi. Et puis donc, avant c'était poussin. Mais ils peuvent très bien commencer à faire les compétitions. Et donc actuellement, moi j'étais président et puis entraîneur aussi. Et donc là, je continue toujours, j'ai un peu mis le côté, laissé ma place de président. Maintenant c'est monsieur Vincent Lorenz qui est président. Moi je suis resté vice-président et je suis entraîneur. Et moi j'entraîne maintenant le samedi matin, j'entraîne les filles.
On peut faire du BMX toute l'année ? Ou c'est simplement printemps, été ou...
On essaye de faire le maximum pour qu'ils puissent rouler toute l'année. Après, c'est souvent aussi fonction du temps. Et parce que après, bon, quand il pleut, voilà, c'est pas évident. Donc nous, l'hiver, ce qu'on fait, maintenant, on met des bâches. On bâche toute la piste, du départ jusqu'à l'arrivée, pour essayer de faire rouler au maximum et d'ouvrir au maximum le club pour que les pilotes puissent venir s'entraîner.
Vous bâchez, ça veut dire quoi? Parce que je comprends pas. Ben vous ne roulez pas quand c'est bâché.
J'ai dit, on met des bâches justement quand il pleut pour éviter après.
Vous roulez sur les bâches?
Oui, on roule sur les bâches. On met des bâches pour empêcher, parce que si on ne met pas de bâches, ça permet, si il pleut, ça fait des flaques d'eau et tout. Et après, on bâche. Et c'est-à-dire qu'on peut continuer à rouler, à ouvrir, et on peut rouler quand même s'il y a les bâches dessus. Et après, on arrive à la période du printemps, on débâche tout, on enlève les bâches. Et puis donc après, bon, chaque année, après on schiste, on fait appel à la ville, on nous fournit 30 tonnes de schiste, c'est le tas que vous avez derrière là. Et donc après, c'est comme c'est de la tuile concassée, quoi. Et donc après, c'est comme la terre battue, comme au tennis. Et donc après, on remet ça sur, au printemps, on met ça sur la piste, et puis donc après, on compacte, et puis après, c'est de l'entretien, parce qu'après le printemps, l'herbe pousse, c'est beaucoup d'entretien.
Pour le BMX, il existe des pistes couvertes?
Pistes couvertes, oui. Parce qu'après, il y a des villes, ils font des compétitions, on appelle ça des indoors. Et donc, comme à Caen, Saint-Étienne, eux, ils font des c'est comme des Coupes de France. Et donc, eux, ils font ça en indoor, en salle, le week-end.
Il faut quand même au BMX un certain équipement.
Oui, ah oui, obligatoire. Donc, casque intégral, gants, maillot manche longue. Après, un pantalon jean. Et puis donc après, nous, ce qu'on fait, là, on a fait des maillots du club. Et donc après, on fait fabriquer des maillots avec le prénom derrière.
Et il n'y a pas de chaussures spécifiques?
Non, pas de chaussures spécifiques. Après, c'est des tennis. Parce qu'après, il y a une catégorie de pilotes. Après, quand il y a des pilotes qui sont confirmés, eux, ils roulent en pédale automatique, comme les cyclistes. Mais là, il faut être vraiment confirmé. On ne peut pas mettre un gamin avec tout de suite en pédale automatique. C'est-à-dire que là, quand le pilote passera avec des pédales automatiques, il aura déjà un certain niveau.
La dernière demi-finale, donc, s'est lancée. Ce sont les 17-24 ans et le bon départ. Il est du côté de Romain Vitry, le pilote du BMX Coupe de
Alors là, on va parler un peu de l'organisation des championnats, puisque ici c'est la quatrième manche du championnat de printemps.
Ouais.
Ça correspond à quoi en fait?
C'est une catégorie au début d'année, c'est là comme on fait là, c'est la dernière de la coupe de printemps. Et après, on redémarre après ensuite vers septembre, et on appelle ça championnat d'automne.
En fait, là, c'est la quatrième manche, c'est de la région des Hauts-de-France.
Ouais.
C'est divisé en régions.
Oui, en région.
C'est les Hauts-de-France ou c'est les quarts Est?
C'est le Hauts-de-France. Parce qu'avant, on appelait ça championnat de Picardie. Et ben après, maintenant, c'est devenu le Hauts-de-France. Et puis maintenant, c'est pour ça qu'on partage entre l'Oise et puis le Nord. Et puis on appelle ça le championnat de Hauts-de-France.
Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait des compétitions, le quart Nord-Est.
Oui, parce qu'après, quart Nord-Ouest et tout, après, on passe après sur. On sort là, du championnat Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'après, c'est une catégorie pour Nord-Ouest, Sud-Est et tout. C'est pour se qualifier, pour aller après. Sur les grands championnats, pour réunir après le championnat de France, le championnat d'Europe, et puis donc après, ces courses-là permettent aussi pour se qualifier pour le championnat du monde. Et là, cette année, le championnat du monde se passe à Copenhague, je crois. Et donc, on aura des pilotes qui seront qualifiés pour le championnat du monde, et après, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de les aider pour qu'ils puissent participer. Parce que l'année dernière, on a eu un pilote qui est parti aux USA pour le championnat du monde. C'est Maxime Demange. Et donc, puis là, actuellement, c'est un pilote qui roule très très fort. Il est dans une catégorie, il a 12-13 ans. Et il roule, c'est vraiment incroyable, quoi. Il est qualifié, comme Vincent Lorenz, il est qualifié aussi. Et puis on espère qu'ils participeront au championnat du monde pour représenter les couleurs de Crépy.
On n'a pas parlé encore la façon dont se déroulait la compétition. J'ai bien compris, il y a trois manches d'abord, qualification.
Voilà.
Et après, on attaque.
Dans chaque catégorie, il y a suivant le nombre de pilotes. Parce qu'après, ça se passe comme ça. Il y a trois manches qualificatives. C'est-à-dire qu'ils partent à 8 au départ. Il faut terminer dans les 4 premiers. Donc après, ils font leurs trois manches comme ça. Et donc à partir de là, il faut rentrer. Après, on calcule 4. Il faut qu'ils arrivent dans les 12 points. Donc après, arriver là, s'il peut avoir très bien des. Suivant le nombre de pilotes, il peut très bien avoir des quarts, des huitièmes. Et donc après, admettons s'il y a. Admettons deux demi-finales de chaque catégorie. C'est pareil, ils vont partir à 8. C'est-à-dire on va prendre les 4 premiers. L'autre demi-finale va se courir, ils vont partir à 8, on va reprendre les 4 premiers. Et donc après on réunit les 4 premiers de la première demi-finale, on reprend les 4 premiers de la deuxième demi-finale, on les réunit pour faire une finale à 8 sur le départ. Parce que la butte de départ, ça correspond à 8 pilotes maximum.
Ouais, après les 3 manches qualificatives, c'est élimination directe.
Oui, après ceux qui passent pas les points, et comme je vous dis, il faut terminer dans les 4 premiers absolument.
Chaque pilote fait au moins 3 manches.
Ah oui,
à chaque
oui.
fois, à chaque compète.
Ah oui, chaque pilote fait sur 3 manches. Et sur ces 3 manches-là, il faut finir au moins dans les 4 premiers pour se qualifier. Et arrivé là, s'ils sortent des points, eux, ils ont fini. C'est-à-dire qu'ils sortent des manches, la course est terminée.
Donc là, j'ai compris que le championnat de France cette année, ça serait à Compiègne, c'est ça?
Oui, donc là, il va y avoir un championnat de France au mois d'octobre. Et donc à Venette, et là, c'est une grosse compétition. Là, ça va réunir plus de 1000 pilotes. Ça va se passer sur un week-end. Et donc là, et puis en plus de ça, je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait un pilote qui avait fait les Jeux Olympiques l'année dernière à Paris, qui sera présent là-bas. Donc ça va passer aussi sur les chaînes télé. Mais là c'est vraiment le grandiose. Là, c'est là pour voir les élites, enfin, vraiment les pilotes qui roulent fort. Là c'est vraiment impressionnant.
Dans le sud de l'Oise, pour RVM, c'était Hervé de Chornia, à la découverte du BMX Club Crépinois lors de la 4e Coupe régionale de printemps des Hauts-de-France.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus 106,6. Vous pouvez nous écouter sur le DAB+ et nous réécouter sur notre site internet campuslille.com. Bonne écoute.
Le 14 juillet, la fête du Saint-Nicolas, on aimait bien les bourrer.
Le 14 juillet, à la fête du quartier,
souvent ça se terminait au bal des Condés.
Nicolas, ce Nicolas qui était plus qu'un frère, qui me disait toujours, la vie ne dure qu'un jour. L'ironie du sort a voulu que cette nuit de 14 juillet fût son dernier jour.
Ah, là-dessus, ouais. Ouais.
Eh ben dis donc, je sais pas ce qu'on va faire sonner.
Non. Bah, il est plus là.
Ouais, non.
Ça va, Nicolas.
Ah oui.
La place où c'est pas lui, tel que dans le film, ça va.
C'est pour ça un canon.
La fête commence!
Le 14 juillet, à la fête du quartier, avec mon copain Nicolas, on aimait bien les bourrer.
Le 14 juillet, à la fête du quartier,
souvent ça se terminait.
Да се напием и да ти певам ову песню, ја.